Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que votre week-end se passe bien et ce sera toujours le cas après le passage de toute l'équipe du Mag Loisir Week-end.
Oui, oui.
30 minutes de découverte avec vous sur France Bleu, c'est comme ça chaque samedi, chaque dimanche, de l'info, du sourire, avec des dents pas toujours éclatantes, c'est vrai. Il y aura de la télé avec Patrice Gascoin.
Bonjour.
La musique avec Éric Bastien.
Bonjour.
Le cinéma Ségolène Aluni.
Hello Arnold.
Vanessa Lambert pour l'Actu Sport.
Bonjour.
Et Frédéric Le Ternier pour le Conseil Lecture.
Salut.
Frédéric, vous aurez le plaisir de nous faire découvrir le dernier candidat en lice pour le prix du livre France Bleu, 19 euros.
19 euros, ah, c'est pas le titre, mais c'est sûrement le prix. Bien vu Arnold, ça s'appelle Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier chez Albin Michel. C'est sombre, mais c'est très très bien.
Voilà, toujours commencer par un petit bide. Brûler Molière, c'est le titre plus qu'audacieux d'une fiction que vous allez découvrir sur France 2 demain soir. Et c'est votre conseil télé, Patrice Gascoin.
Mais qui en veut à Molière au point de lui promettre le bûcher? La réponse, c'est dans un vrai thriller historique lundi soir sur France 2.
Et vous vous souvenez ce qu'il est dit dans le Tartuffe? Le chemin est long du projet à la chose. Hein. Ce verre dresse aussi le bilan de toutes mes années de drague. Et justement, à propos de ça, nous partirons pour le prochain festival de Cannes dans l'actu ciné de Ségolène Aluni.
Oui.
Séquence anecdote sur ce prestigieux festival Ségolène.
Oui, on va remonter un petit peu l'histoire du festival de Cannes qui était un festival de loupé au départ et puis on fera un petit peu de l'anecdote.
Voilà. Allez, avec voilà. Plaisir.
Festival. Ça vous dit?
Oui, vous apprendrez à prononcer ce mot.
C'est ça.
Hein, ça nous fera plaisir. Voilà. Toutes les stars de la chanson viennent jusqu'à l'actu musique d'Éric Bastien en tapis roulant, c'est vrai. Bah, attendez, regardez, il y a quand même Elton John, David Bowie et Madonna.
David Bowie, vous pouvez pas dire ça, non.
Oui, il y aura Madonna. Il y aura Madonna aussi avec son tapis roulant. Ouais. Le retour de Madonna dans l'actualité musicale. On va découvrir ça tout à l'heure.
D'accord, rassemblez-vous. Madonna, hein, qui les mauvais jours ressemble à Elton John au réveil, c'est dur. Et nous terminerons ce Mag Loisir avec l'actu sport de Vanessa Lambert. Le foot, c'est bien, surtout quand c'est chez nos voisins.
Mais si vous en avez marre des 0-0 et de savoir si quand on va se sauver en Ligue 1, toujours à la dernière journée de championnat, on ira voir ce que font nos voisins. C'est parfois un peu plus excitant quand
et
même.
Oui, le championnat italien, c'est mon préféré quand ils sont en forme. Vous allez au foot et au cinéma en même temps. Hein, ça, c'est bien. Voilà. Le Mag Loisir Week-end vous souhaite la bienvenue. On commence avec le conseil lecture de Frédéric Le Ternier.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Frédéric, on termine la sélection des nommés pour le prix du livre France Bleu, page des libraires. Avec quel roman?
Avec Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier. Alors ce prix du livre France Bleu, je vous en ai parlé depuis quelques temps, quelques week-ends. C'est donc pour un roman français sorti dans l'année. Il sera remis début juin, ce prix. Et tranchera entre Le cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc, une fresque, un livre d'aventure aux éditions Métellier. Pas dupe d'Yves Ravet aux éditions de Minuit. Ça c'est un polar à la Colombo qui se déroule en Californie. Le dernier roman de Véronique Ovaldé, Personne n'a peur des gens qui sourient, où j'ai eu du fil à retordre avec le titre, qui est une trajectoire de vie d'une mère et de ses deux filles qui fut une menace. Alto Braco de Vanessa Bamberger chez Liana Levy qui raconte un retour aux sources et un amour de la terre. Et donc, Les Mal-Aimés, que de style différent, la tâche sera difficile.
Alors, pour ces Mal-Aimés, quelle est l'intrigue, s'il vous plaît?
Tout se passe aux confins des Cévennes, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Il y a une maison d'éducation pour jeunes délinquants qui va fermer ses portes et des adolescents décharnés quittent le lieu sous le regard de leur geôlier et de paysans. On se retrouve ensuite 17 ans plus tard, il y a une succession d'événements étranges qui se produit dans le village et chacun soupçonne son voisin. Les chèvres sont décimées par la maladie, des meules de foin prennent feu spontanément, les morts sont de plus en plus nombreux et c'est là qu'une rumeur va petit à petit se murmurer.
Ah bon, mais laquelle?
Qu'il s'agirait des enfants morts au bagne, comme tout le monde l'appelle, et qui reviendraient se venger de toutes ces tortures qu'ils ont subies avec la complicité des paysans alentours. Et de ces souvenirs, eh bien, ça va venir tous les hanter et puis certains des pensionnaires comme le Petiot, se sont échappés. Que sont-ils devenus? Là encore, c'est mystérieux. De plus, nous sommes dans un endroit et dans un milieu où l'on ne parle pas. Se taire a toujours été, pour tous, la meilleure des solutions.
Alors, deux mots, s'il vous plaît, Frédéric, sur la narration.
Elle est multiple. On s'arrête le temps d'un chapitre, par exemple, sur Étienne, un jeune berger élevé par un couple de paysans qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui a toujours été cogné pour apprendre plus vite son métier. Il y a la Cruère qui récupère des enfants orphelins pour toucher la pension de l'assistance publique. Il y a Morluc, le médecin alcoolique qui rêvait de travailler en ville et qui est revenu à la campagne il y a seulement quelques semaines. Il regarde toute cette misère avec sévérité et dégoût. Il y a aussi la jolie Blanche qui subit les assauts incestueux de son oncle dans la noirceur d'une écurie. Ou encore le curé qui rêve que le bagne rouvre ses portes parce qu'il croit profondément à l'ordre et aux remontrances. Bon, je pense qu'à ce stade de ma description, vous vous êtes rendu compte de la noirceur du tableau.
Ah oui.
Mais ce qui est important à retenir, c'est que l'écriture de Jean-Christophe Tixier est hypnotique.
Ah bon? Et comment ça?
Eh bien, ce portrait d'une communauté rongé par les non-dits est certes poignant, mais le dégoût qu'il nous inspire est conforme avec ce que ces gens ont laissé faire et ce avec quoi ils ont participé. L'écriture de Tixier donne énormément à voir, ça va vite, on est emporté par le récit. Nous aussi, lecteurs, on veut comprendre ce qui s'est passé. Quel a été le rôle mesquin de chacun dans le sort abominable de ses enfants? Et mesquin, c'est pour ceux qui sont le moins coupables. On sent que ces hommes et ces femmes sont destinés à porter le mal en eux, alors que c'est le diable qu'ils redoutent, c'est quand même marrant. Tixier sonde les âmes humaines dans ce qu'elles ont de plus affreux. C'est du très très sombre, c'est une sorte de polar rural exécuté de main de maître. Cette lecture, je vous le dis, ne vous laissera pas indemne.
Eh ben, dites donc, c'est tout un programme. Hein.
Ouais. Ouf. Mais en tout cas, on se plonge dedans, ouais. Franchement.
Oui, ouais, bah, vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié, en tout cas. Comment ça se passe pour la suite du prix du livre France Bleu, maintenant qu'on a fait les présentations?
Il y aura délibération avec des professionnels, moi-même, s'il vous plaît. Et puis le prix sera remis début juin avec tout le collectif Page des Libraires. Ça va être difficile de trancher.
Oui, je pense bien. En tout cas, je vous rappelle le titre de ce dernier candidat en lice. Les mains, je suis les mains. De Jean-Christophe Tixier, c'est chez Albin Michel.
Le Mag Loisir Week-end sur France Bleu, Arnold Derek.
Et l'on retrouve Patrice Gascoigne dans ce Mag Loisir, c'est l'actu télé. Et vous avez la solution, Patrice, brûlez vos livres, tout simplement.
Voilà.
Et commencez par brûler Molière, c'est ça votre programme?
Oui, je vous rassure, vous qui aimez nous écouter et lire, vous qui suivez les conseils de Frédéric Le Ternier, que je vois un peu rendu inquiète par ce titre, forcément.
Oui, très.
Brûler Molière, c'est le titre d'une fiction à découvrir lundi soir à 21h sur France 2, une fiction qui va précéder la cérémonie des Molières. Brûler Molière parce qu'on va découvrir qu'en 1664, l'église catholique est très 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 remontée contre Molière. Molière vient d'écrire Tartuffe, où il se moque diablement des dévots et des cathos. Louis XIV rit de cette farce, mais l'église catholique va lui demander de l'interdire.
Molière n'est qu'un libertin. Pire, un affranchi et rien d'autre. Nous connaissons bien ce qui l'anime. Avec cette farce, il veut bouleverser l'ordre des choses.
Cet auteur se moque du vice des hommes pour nous distraire et non pour changer le monde. Est-ce son rire ou la vérité de ce qu'il dit qui vous dérange?
Un homme qui fait rire n'est pas un auteur, mais un saltimbanque. Les vrais dramaturges, eux, respectent la religion. Voyez Corneille, ils ne se moquent pas des gens de foi.
Enfin, monseigneur. Avec son Tartuffe, Molière ne se moque pas de notre sainte église, mais se rit des dévots de façade et des hypocrites, que vous ne sauriez défendre, j'espère.
Certes, mais le public est-il à même de saisir cette nuance?
Est-ce pour m'entretenir des subtilités de l'art théâtral que vous m'avez demandé audience à cette heure tardive en me privant de mon souper?
Et oui, extrait de Brûler Molière, thriller historique diffusé lundi soir sur France 2. Alors, soucieux de ses intérêts politiques, Louis XIV va céder à l'église et interdire à Molière toute représentation de Tartuffe. Et l'église va même promettre le bûcher à Molière, d'où le titre Brûler Molière. Alors, pendant 5 ans, Molière va se battre pour obtenir le droit de rejouer sa comédie. Et la question est toujours d'actualité, hein. C'est peut-on rire de tout? L'art peut-il être censuré? L'humour condamné? Vous allez découvrir un Molière comme vous ne l'avez jamais vu ou jamais lu. Cette fiction a été vérifiée, adoubée, authentifiée, notamment parce qu'elle s'appuie sur les derniers écrits de l'historien Georges Forestier. Forestier qui a apporté récemment des éclairages sur la vraie vie de Molière et qui est intervenu sur le scénario de Brûler Molière. C'est Dimitri Storoge qui incarne Molière dans cette fiction qui nous raconte ça.
L'histoire a été proposée à Jacques Malater, le réalisateur, et qui a aussi écrit le scénario. Et au moment où il faisait des recherches pour écrire un scénario sur Molière à cette époque, il est tombé sur ce Georges Forestier, qui est professeur à la Sorbonne, et en lui écrivant des mails, il découvre que le gars est en train d'écrire une nouvelle bio sur Molière avec toutes ses infos. Donc ce qui s'est passé, ils sont rentrés en espèce de ping-pong. C'est-à-dire que, mais Jacques Malater pourrait vous le raconter mieux que moi, il écrivait le scénario qu'il envoyait à Georges Forestier, qui lui raturait en rouge, non ça non, non ça non, non tel jour il ne pouvait pas être là, il était à tel château. Donc il lui validait oui non, oui non, oui non. Donc en fait c'est une vraie fiction, mais documentée historiquement, validée, Sorbonne, estampillée. Voilà la méthode de travail qui a été mise en place pour que ce soit historiquement vrai.
Formidable acteur, hein, Dimitri Storoge, si vous me permettez.
Tout à fait, qui joue donc Molière dans Brûler Molière. Voir lundi soir, vous allez découvrir un Molière libertin décapant qui se bat pour la liberté d'expression, refusant de céder aux menaces.
Tu as menti à notre souverain?
Omis seulement. Je dois prouver ma bonne volonté au roi, c'était là une merveilleuse occasion.
Afin qu'il t'autorise à jouer ton nouveau Tartuffe?
Oui.
Crois-tu l'emporter à force d'obstination?
Madeleine, l'époque dans laquelle nous vivons ne laisse guère de place à nos esprits libres. Je ne puis l'accepter.
Et on te calomniera encore?
C'est le destin de l'artiste, non? Et la meilleure de ses publicités.
Brûler Molière, thriller historique, lundi soir sur France 2. Et puis juste un petit mot pour finir, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même une page de la télévision qui se tourne ce soir. Ce soir, c'est la dernière des années bonheur sur France 2, mais c'est surtout la dernière de Patrick Sébastien à la télévision, en tout cas sur France 2, sur le service public, même si pour l'instant, aucune autre chaîne ne s'est manifestée pour le recruter. Donc quand même, salut l'artiste et merci pour tous ces jeunes talents qu'il nous a fait découvrir. Salut Patrick.
Merci beaucoup Patrice Gascoigne pour ce très gentil mot. Hein. C'est rare, la solidarité. Hein, Ok.
Ok.
Exact, voilà.
Ok, merci, merci. Bon, bah, vous voyez un peu l'ambiance du Mag Loisir que vous allez retrouver dans un instant. On parlera cinéma avec Ségolène Aluni. Vous nous emmènerez au prochain festival de Cannes, la 72e édition. Une séquence maison de repos dans l'actu musique d'Éric Bastien, Elton John, David Bowie, Madonna. Et puis nous terminerons avec du sport, Vanessa Lambert. On ira faire un tour chez nos voisins, les divers championnats de foot ailleurs en Europe. Restez avec nous, ça va être passionnant, à tout de suite. Le Mag Loisir Week-end se poursuit en votre compagnie, merci d'être avec nous. On passe tout de suite au cinéma.
France Bleu, le Mag Loisir Week-end.
Le retour de Ségolène Aluni, on ne savait pas où elle était, nous non plus.
Moi non plus, j'ai oublié déjà.
Oui, ça ne nous étonne pas. Alors quelques anecdotes Ségolène sur le Festival de Cannes qui commence quand même dans 4 jours. Ouais. C'est la 72e édition.
Et oui déjà, et c'était pas gagné au départ puisqu'il est écrit partout que le Festival de Cannes a commencé en 1946, soit juste après la guerre. Mais le tout premier Festival international du film, parce que ça c'est son vrai nom, était prévu en 1939. Louis Lumière d'ailleurs était nommé président cette année-là. Sauf que le 1er septembre 39, premier jour du festival, les troupes allemandes pénètrent en Pologne, la France déclare la guerre à l'Allemagne, le premier festival de Cannes n'aura pas lieu. Il faudra donc attendre la fin du conflit pour entendre cette musique. Musique que vous reconnaissez.
Oui, le carnaval des animaux.
Voilà, c'est l'air qui ouvre toutes les projections pendant le festival, quelle que soit la compétition, c'est devenu l'identité du festival. Camille Saint-Saëns, qu'il avait d'ailleurs écrit pour le fun et de son vivant, il refusait qu'elle soit jouée, d'ailleurs, le carnaval des animaux. Il s'arracherait les cheveux aujourd'hui, je pense, avec le festival de Cannes.
Où il gagnerait beaucoup d'argent.
Où il gagnerait beaucoup d'argent. Alors, il l'a composé en 1886 à l'occasion du carnaval de Paris, comme une œuvre satirique, d'où son titre, le carnaval des animaux. Et quand on y pense, bah, c'est plutôt pas mal trouvé, parce que le Festival de Cannes, bah c'est un peu un carnaval, et même un sacré bestiaire. Je parle même pas des people, hein, parce que le spectacle, il est devant le Palais des Festivals. Sur la croisette, on croise des énergumènes de taille. Par exemple, jusqu'en 2015, on pouvait tomber sur deux femmes légendaires, deux femmes panthères. Pascaline et Esmeralda, à votre avis, pourquoi les appelait-on les femmes panthères?
Parce qu'elles étaient habillées en panthère.
Exactement, elles défilaient sur la croisette, habillées toujours pareil, en panthère. Et ça a forgé leur réputation. Grâce à leur tenue, elles sont devenues connues dans le monde entier, incontournables à Cannes. On les voit même dans le film La Cité de la Peur, lors de la course-poursuite avec Alain Chabat. Et elles ont fréquenté le gratin de Cannes.
J'ai rencontré mon chouchou, qui est Quentin Tarantino.
Ah, c'est vrai.
Et puis le dernier que j'ai vu, c'est lui. Il partait, il prenait prendre l'avion pour rejoindre chez lui. Et il m'a fait du coucou, c'était super.
Voilà. Les femmes panthères qui ensuite ont participé à un safari, ça s'est mal passé.
N'importe quoi. Ça c'était une des femmes panthères, la mère Pascaline, puisque c'était la mère et la fille Pascaline qui nous a quittés en 2015. Donc vous ne pourrez plus voir les femmes panthères. Par contre, la faune du Festival de Cannes, ce sont aussi les fans qui cadenassent les chaises et des escabeaux en face du palais plus d'une semaine à l'avance pour pouvoir approcher les stars qui passent par là avant la montée des marches. D'ailleurs, vous savez combien il y a de marches sur
14, 53,
84.
Non. Ah non, 24. Ah, 24, vous étiez pas loin.
Moi, je prends toujours l'ascenseur, pardon.
Le tapis rouge qui est la star du festival, à tel point qu'il est changé 3 fois par jour, ce tapis rouge. 60 mètres renouvelés 3 fois quotidiennement pendant 12 jours. Ça fait 7000 mètres carrés de carpet qu'on retrouve ensuite dans nos voitures, figurez-vous. Puisque le tapis rouge, il est entièrement recyclé en tapis de voiture. On est un peu écolo à Cannes. Donc quand vous prenez votre bolide, vous posez peut-être le pied sur un tissu foulé par Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio.
Ouais. J'y penserai la prochaine fois que je monterai dans ma Fuego. Alors, justement, toutes ces stars, elles seront là cette année.
Et oui, Arnold, parmi les poids lourds de cette nouvelle édition, 25 ans après sa palme d'or pour Pulp Fiction, Quentin Tarantino revient dans la compétition avec Once Upon a Time in Hollywood, avec DiCaprio dans le rôle d'un acteur de télévision en fin de course dans les années 60, et Brad Pitt qui interprète son cascadeur.
Un acteur est amené à faire un tas de choses dangereuses. Il me remplace quand j'ai un coup de mou.
Cliff, est-ce que cela décrit bien votre travail?
Quoique je le remplace quand il est mou. Ouais, on peut dire ça comme ça.
Le nouveau Tarantino qui risque de peser très lourd dans la compète officielle. Le Festival de Cannes, top départ mercredi 14 mai. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture présentée par Edouard Baird est retransmise dans 600 salles de cinéma en France. Renseignez-vous, peut-être que votre cinéma le diffuse.
Merci beaucoup Ségolène Aluni. J'en profite également pour vous rappeler que de nombreux films présentés pendant ce Festival de Cannes sortiront en simultané dans les salles. On pourra tous les voir en même temps. C'est le cas du Jim Jarmusch qui ouvre la compétition. Ouais. The Dead Don't Die, qui est un film de zombies assez rigolo. Le Festival de Cannes, je le rappelle, c'est du 14 au 25 mai.
Le Mag Loisirs Weekend sur France Bleu, Arnold Derek.
L'actu musique d'Éric Bastien, vous les marges, vous les avez montées, remontées, descendues,
oui,
combien de fois?
Bon, une cinquantaine de fois.
Mais c'était juste, c'est chez vous, dans votre immeuble.
Exactement. Alors. Et puis j'ai tout dans ma voiture, dans la Fuego.
Allez, on y va, Éric Bastien, l'actu musique, avec le 29 mai, Rocketman. Alors ça, c'est l'autobiographie d'Elton John, ça, ouais. Ça sortira sur les écrans.
Bah oui, on continue hein, finalement de parler de cinéma. L'acteur Taron Egerton deviendra Elton John dans le biopic Rocketman, vous l'avez dit, qui sortira donc dans quelques jours, le 29 mai. Alors... Ben justement, la production en profite pour sortir la bande originale aussi du film. Il faut savoir que dans Rocketman, ce sont pas des vieux enregistrements d'Elton John qui vont rythmer en musique les séquences, mais des reprises interprétées par l'acteur lui-même. Voici le premier extrait. Il chante très bien, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ouais.
Oui, il faut saluer la démarche. Il n'est pas hyper ressemblant physiquement, la voix c'est pas ça, mais quand même, bravo.
Taron Egerton, et donc cette bande originale dont je vous parlais, sortira dans les bacs dans quelques jours, le 17 mai, le lendemain de sa présentation hors compétition au Festival de Cannes, dont on parlait à l'instant. Un petit mot sur Rocketman, hein, c'est un single d'Elton John qui est le premier à avoir atteint le sommet des charts américains. On est en 1972.
Le 28 juin, ce sera au tour de David Bowie d'être à l'honneur, mais pourquoi?
Avec un album de Mercury, un album qui va contenir 10 démos, pour la plupart inédites, qui date de 1969, donc c'est un bel anniversaire, parce que ça fait tout juste 50 ans. Un album inédit uniquement publié, vous allez adorer Arnold, en format vinyle. Pour tous ceux et celles qui aiment les vinyles, vous allez vous régaler. 10 maquettes, dont 4 inédites, enregistrées en 1969. À ne pas manquer donc cette sortie vinyle pour David Bowie le 28 juin. Et puis à en parler du biopic d'Elton John, un biopic de David Bowie est actuellement en préparation. Et on sait déjà que c'est l'acteur-chanteur Johnny Flynn qui interprétera la star en 2020. C'est pas complètement confirmé.
Ah non, parce que le fils de David Bowie s'y oppose formellement. Hein.
C'est pas encore signé.
Ah bah je l'ai eu au téléphone, je peux vous dire qu'il s'y oppose.
On va s'en mêler Arnold, d'accord. On va faire ce qu'on peut, ça sortira en 2020 si le film se tourne. Donc,
Madonna is back.
Eh oui, tournée mondiale intitulée Madame X dans tous les théâtres, dans des salles bien particulières qu'elle a choisies. Et notamment à Paris, on pouvait s'attendre à de très grandes salles. Non, elle a choisi le Grand Rex. C'est un événement bien sûr, hein. La Madonna sera là début 2020, il n'y a pas de date précise. Mais ce sera le Grand Rex sur les grands boulevards à Paris avec une tournée monumentale qui va débuter par les États-Unis, New York, Chicago ou encore Los Angeles. C'est un nouveau single extrait de l'album Madame X qui sortira le 14 juin. Le nouveau Madonna, donc le 14 juin dans les bacs, et puis début 2020 au Grand Rex.
Allez, une petite devinette pour terminer cette actu musique. Éric Bastien, elle a vendu 600 000 albums en 2006 et elle est de retour. Mais de qui peut-il s'agir?
Alors, à vous. Non, c'est une Française.
Chimène Badi.
Non, elle porte le prénom d'une couleur.
La Rose.
Rose, vous souvenez de Rose en 2006, 600 000 exemplaires avec ce titre.
Je t'ai tout par les fenêtres. T'aimais de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça.
Ah mais oui, voilà pourquoi je m'en rappelle pas. En 2006, j'étais sur la banquise.
C'est ça, vous aviez piscine. La liste a cartonné il y a quelques années. Elle est de retour, Rose, avec un cinquième album qui s'appelle Kérosène, qui sortira en septembre, et un single, Larme à paillettes.
Petit
Et ce sera très dance floor. L'album sortira en septembre. Une tournée prévue dès la rentrée pour Rose, qui fait la fierté, comme vous, Ségolène Aluny de Nice, puisqu'elle est niçoise. Rose, elle s'appelle Karen de son vrai prénom.
D'accord. Eh bien, merci pour cette précision. Vous-même, merci. Votre prénom, c'est Violette, je crois.
Exactement. Violette.
Voilà. Merci.
Lou Violette.
Lou Violette. Lou Violette. Lou Violettou, comme aime à vous surnommer affectueusement les Provençaux, que l'on salue. Bien évidemment. Merci pour cette actu musique. On passe au sport.
France Bleu, le mag loisir week-end.
Alors, vous l'avez peut-être entendu, c'était une semaine spéciale Europe sur France Bleu, avec jeudi même la journée de l'Europe. L'occasion, Vanessa Lambert, d'aller faire un tour chez nos footballeurs européens.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas que la Ligue 1 dans la vie. Quand on aime le foot, on a toujours un œil sur l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. Si en France, on sait déjà que le PSG est champion, c'est un peu plus indécis chez nos voisins. Alors, on va commencer par l'Italie et la Serie A. Pas de surprise, on sait depuis le 20 avril que c'est la Juventus de Turin qui sera sacrée champion. Elle avait déjà suffisamment d'avance pour ne pas être rejointe. La Juve et son attaquant vedette, Cristiano Ronaldo. Et pour la Juve, c'est le 8e titre d'affilée, ce qui est un record en Europe. Derrière, on retrouve les prétendants à la Ligue des Champions, Naples, l'Inter de Milan et Atalanta. En revanche, grosse déception pour les fans du Milan AC, actuellement 5e du championnat. Rien n'est fait, mais ça va être un peu compliqué pour la Ligue des Champions. Il reste encore 3 matchs à jouer en Italie.
Très bien, alors après l'Italie, Vanessa, l'Espagne avec la Liga.
Et là aussi, pas de suspense, c'est le Barça de Lionel Messi qui remporte le titre, le 26e de son histoire et le 10e titre pour Messi. Le Barça, en revanche, ne jouera pas la finale de la Ligue des Champions, battue par Liverpool au match retour mardi dernier, dans un match d'anthologie. Derrière l'intouchable Barça, on retrouve l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, le Real Madrid et Retafe. Valence et Séville peuvent espérer rejoindre Retafe pour la dernière place de Ligue des Champions. Mais il va falloir faire vite car il ne reste plus que 2 matchs en Espagne. Allez, un petit peu de suspense maintenant avec la Bundesliga, le championnat allemand. A priori, sauf séisme, c'est le Bayern de Munich qui sera sacré champion pour la 7e fois d'affilée. Il reste encore 2 matchs à jouer et l'équipe de Franck Ribéry a 4 points d'avance sur Dortmund. Alors à moins que Munich perde tous ses matchs et que Dortmund gagne les 2, on ne voit pas bien comment la machine Bayern pourrait s'enrayer. Qualifié pour le moment pour la Ligue des Champions, le Bayern et Dortmund, Leipzig également, et pour le 4e ticket, ça se joue entre Eintracht et Mönchengladbach.
Voilà, pour le... Et pour le Bayern de Munich, hein, y a Ribéry qui dit Auf Wiedersehen, hein, puisqu'il
quitte. Dernière saison.
Alors, en toute logique, Vanessa, on va terminer avec l'Angleterre.
La première ligue, alors là, c'est méga chaud patate. Le dernier match a lieu demain, dernier match de la saison, et les bookmakers s'enflamment parce qu'il n'y a qu'un point, un tout petit point d'écart entre le leader Manchester City et son dauphin Liverpool. Ils n'ont pas arrêté de jouer à cache-cache ces dernières semaines. Et vas-y que je te passe devant et je te repasse devant. Demain, les Reds de Liverpool reçoivent Wolverhampton pendant que Manchester City sera à Brighton, un mal classé du championnat. Ça va être très très chaud, mais c'est aussi ce qui fait le charme du football. Loin derrière, on retrouve Chelsea et Tottenham. En revanche, impossible pour Arsenal et Manchester United de prétendre à la Ligue des Champions cette année. Les temps changent.
4 championnats magnifiques avec des joueurs vraiment incroyables. Hein. Vous en avez cité quelques-uns. Il y a beaucoup de Français encore chez nos voisins européens.
Bah, en fait, nos champions du monde sont quasiment tous là-bas. C'est l'Angleterre qui attire le plus les Frenchies. On compte aujourd'hui 29 joueurs en première ligue. Hugo Lloris à Tottenham, N'Golo Kanté à Chelsea ou encore Olivier Giroud et Paul Pogba à Manchester United. Ensuite, c'est l'Allemagne avec 23 joueurs français. Franck Ribéry, bien sûr, au Bayern de Munich, dont c'est la dernière saison, on l'a dit. Mais aussi Kingsley Coman et Corentin Tolisso et puis bien sûr Benjamin Pavard à Stuttgart. En Espagne, ils sont 22. Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid, Samuel Umtiti au Barça ou encore Raphaël Varane au Real Madrid. Et enfin, l'Italie compte 18 joueurs français dans le calcio, parmi lesquels Blaise Matuidi à la Juventus de Turin et Steven Nzonzi à l'AS Rome.
Et merci beaucoup pour ce tour d'horizon européen du foot, Vanessa Lambert. C'est vrai que ça fait bizarre, hein, Pavard à Stuttgart quand il s'agit de chanter sa chanson « Try to frappe tes bâtards, Benjamin Pavard !»
On salue les Allemands.
Oui.
C'est horrible. Ouais.
Coucou.
France Bleu, le mag loisir week-end.
Ce mag loisir week-end vous a plu?
Ah ouais.
Ouais.
Vous en voulez encore?
Oui.
Ah ouais. Ah ouais. Eh ben non, c'est fini.
Ah non.
Eh oui, revenez nous voir demain dimanche. Il y aura encore plus de belles découvertes pour vous, notamment le nouveau roman de Bret Easton Ellis, présenté par Frédéric Le Ternier.
Eh oui, ça s'appelle White. On est vraiment ravis de le retrouver. C'est l'occasion de revenir sur la carrière de Bret Easton Ellis.
Attention, un écrivain, ne pas mettre sous tous les yeux. Hein. Parfois, ça peut être un peu olé olé, comme disent les jeunes aujourd'hui. Il y aura d'ailleurs de la jeunesse demain dans l'actu musique d'Éric Bastien. Jane Calogero. Qu'est-ce que j'ai dit?
Ah bah la jeunesse.
Voilà. Patrick Bruel et Christophe.
C'est, c'est la jeunesse.
C'est 60 ans pas plus.
Oh, hein. À peine.
Ouais, à peine. C'est bon?
Bon, on a tout dit, ouais, c'est bien, déjà.
Merci. D'ici demain, un petit jeu pour bien vous préparer à l'actu ciné de Ségolène Aluni. Entraînez-vous à dire ce titre de film de différentes manières. Si, séduis-moi si tu peux.
Séduis-moi si tu peux.
Ouais, mais de différentes. Ouais, ouais, ouais. Entraînez-vous, hein, toute la nuit,
de
toute la soirée.
De différentes
manières? Oui, oui. Ouais.
Séduis-moi si tu peux.
Séduis-moi si
ah,
tu
oui,
peux.
Oui, voilà. Séduis-moi, séduis-moi si tu peux.
Voilà. Et vous nous expliquerez ce qu'est ce film?
Exactement, c'est une comédie romantique qui sort la semaine prochaine et qui est franchement top. Je vous dirai pourquoi, voilà.
Séduis-moi si tu peux. C'est bien. Une fiction ancrée dans un thème social, ce sera le conseil télé de Patrice Gascoigne.
Ouais, une fiction plus un débat, moi grosse, c'est la semaine prochaine sur France 2.
Et nous parlerons sport avec Vanessa Lambert, là aussi c'est un sujet de société, Vanessa, sport et homosexualité.
Oui, avec un documentaire à ne pas rater mardi soir, footballeur et homo au cœur du tabou, bah, on a justement le footballeur en question en interview.
Et bah, pour moi, dans les deux cas, ça va marcher, on s'est jamais revus. Hein. Le sport passe de temps en temps, mais l'homosexualité alors...
Pas de nouvelles.
Bah écoutez, voilà,
séduis-moi si tu peux, justement.
Voilà, séduis-moi si tu peux. J'espère vous avoir avec nous demain pour le Mag Loisir. D'ici là, restez sur France Bleu, prenez soin de vous, on vous embrasse.